Et oui, ces journées nationales prison visent à sensibiliser le grand public aux thématiques carcérales à travers de nombreuses manifestations et événements. Le thème de cette année interroge « Prison, une communauté à part ». Pour nous informer sur la situation carcérale dans notre région, nous recevons en plateau ce matin Philippe Lecomte, délégué régional Occitanie de l'Association nationale des visiteurs de prison. Bonjour.
Bonjour.
Et Jacques Ferry, visiteur de prison au centre de détention de Muret. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux visiteurs de prison, vous rencontrez régulièrement détenus et surveillants. Jacques Ferry, pour commencer, vous avez une très longue expérience de visiteur de prison. Quel regard portez-vous de manière générale sur l'univers carcéral? Est-ce que vous avez plutôt un regard de colère? Est-ce que c'est plutôt un regard d'espérance, au contraire?
C'est un regard assez partagé, hein. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que la situation carcérale, particulièrement en Occitanie, n'est pas satisfaisante. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a un phénomène de surpopulation qui touche les maisons d'arrêt, particulièrement la maison de Cesse, mais il y a aussi la maison d'arrêt de Nîmes. Enfin, et là, ça conduit à une détérioration de la situation des détenus. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la première vague après le confinement, il y a eu des libérations qui ont été décidées par Mme Belloubet. Il y a au moins 16 000 détenus qui étaient en fin de peine, hein, qui ont été libérés de façon anticipée.
Donc, ça a donné un appel d'air quand même.
Que ça allait diminuer la pression sur les prisons. Et malheureusement, ce qu'on constate maintenant, depuis un certain nombre de mois, c'est que il y a réinflation carcérale, si vous voulez. Alors, c'est ça que je trouve tout à fait dommageable.
Donc, vous êtes plutôt inquiet, on va dire, sur l'évolution de la situation carcérale.
Je suis préoccupé. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, de façon générale, en France, il y a une culture de l'incarcération qu'on ne retrouve pas, peut-être, dans d'autres pays, les pays du Nord, où le taux d'incarcération est beaucoup plus faible. Alors...
Donc là, c'est plus un débat politique. On ne va peut-être pas rentrer dedans ce matin.
Non, mais c'est une vraie question. La politique carcérale. Donc, j'ai un regard, préoccupé, quoi, disons. Hein. Je pense que, malheureusement... il y a eu des dispositions législatives qui ont été prises. Développement des alternatives à la prison, bracelet électronique, et tout ça, ça se met très lentement en place. Et donc, on est un peu...
Un peu insatisfait aussi.
Et déçu. Il faudrait aller massivement dans une autre direction, il me semble. Hein. Voilà. Bon, à grands traits, ce que je peux dire sur la situation carcérale.
Avant d'aborder le thème choisi pour cette 28e journée nationale prison sur la question de la communauté, aidez-nous à comprendre, Philippe Lecomte, cette distinction entre maison d'arrêt, centre de détention, maison centrale, pour tout le monde, ce n'est pas forcément très clair.
Oui, c'est une question importante parce qu'il y a vraiment un dispositif pluriel au sein de l'organisation de l'incarcération en France. Les maisons d'arrêt dont Jacques vient de parler accueillent, hébergent, si l'on peut dire, des détenus pour des courtes ou moyennes peines, mais également une proportion très significative de prévenus, c'est-à-dire de détenus qui sont en attente de jugement. Tout cela cohabite. Quelle que soit, je dirais, la gravité de la peine, finalement, tout cela cohabite dans des conditions de promiscuité particulièrement inquiétantes sur le plan, évidemment, de la sécurité et sur le plan aussi sanitaire. Donc, il faut bien avouer que la situation en maison d'arrêt en France est suffisamment inquiétante pour que la Cour de justice des droits de l'homme, par exemple, ait émis des avis extrêmement défavorables, évidemment, à l'égard de cette situation.
Pardon, si vous dites qu'il y a des prévenus dans cette maison d'arrêt, est-ce qu'on peut imaginer un climat particulier? Peut-être très anxiogène ou...
Complètement.
C'est ça? Oui.
Complètement.
D'accord.
Il ne faut pas oublier que si le détenu doit passer devant les assises, la durée d'incarcération en maison d'arrêt peut aller jusqu'à 3 ans, voire même parfois au-delà. Donc évidemment, il y a une grosse interrogation sur son propre devenir qui provoque de l'anxiété et parfois, il faut bien le dire, des rapports tendus, voire violents.
Violents, oui.
Entre les détenus eux-mêmes, mais également entre les détenus et la surveillance.
Vous pouvez nous citer quelques maisons d'arrêt qui sont dans cette région Midi-Pyrénées, Occitanie?
Ce serait plus facile de citer les maisons d'arrêt qui ne sont pas touchées vraiment.
Non, mais en général, où est-ce qu'elles sont, en fait, les maisons d'arrêt dans la région?
En général, oui. Jacques parlait de Nîmes, qui est dans une situation effectivement assez compliquée à cet égard. Seyss aussi. Alors, la gravité relève évidemment de ce fameux taux de densité carcérale, mais également de l'importance de l'établissement lui-même. Donc, Nîmes et Seyss sont des très gros établissements. D'autres établissements plus petits sont touchés également par des densités carcérales très élevées. Je pense notamment à Carcassonne ou à Foix. Mais leur dimension beaucoup plus réduite permet de régler plus facilement un certain nombre de problèmes et un certain nombre de tensions. Ceci dit, très clairement, c'est une grande majorité des maisons d'arrêt en Occitanie qui sont touchées par un phénomène de surpopulation et un nombre significatif de ce qu'on appelle les matelas au sol, c'est-à-dire des détenus qui sont obligés de dormir au sol parce que le nombre de couchages n'est pas suffisant.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Jacques Ferry, sur les maisons d'arrêt ?
Oui, non, je voulais que peut-être les auditeurs se rendent compte de ce que c'est qu'au quotidien la surpopulation. Hein. Donc Philippe vient de le dire, les matelas au sol. Alors, il y en a 1100, je crois, au total en France. Et le nombre a augmenté ces derniers mois, donc c'est lié à l'inflation carcérale qui repart, comme je l'ai dit tout à l'heure. Non, ce que je voulais dire, que pour faire toucher du doigt un peu la réalité, c'est que il faut voir qu'il peut dans une cellule de 9 ou 12 mètres carrés, il y a 3 personnes, hein, et qui ne sortent une heure le matin, une heure l'après-midi. Et alors, un détail qui peut être significatif quand même, les toilettes sont à l'intérieur, il n'y a pas de séparation. Alors, vous
imaginez... Il n'y a pas une petite porte quand même entre les...
Non. Alors, donc, vous imaginez, c'est une situation tout à fait dégradante.
De promiscuité
quoi. Et après,
dégradante, oui.
Après, comment ne pas comprendre qu'il peut y avoir des explosions, des violences, des rapports tendus. C'est ça qui est insupportable. Et donc, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et alors, pour parler plus spécifiquement de la maison d'arrêt de Seyss, il y a eu un rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Mme Simonneau, en juin, hein, je crois, qui est sorti. Particulièrement cinglant vis-à-vis de la situation qui a été jugée catastrophique.
Hein. Oui, parce que le juge des référés a été saisi à la rentrée là, par l'Ordre des avocats de Toulouse et la section française de l'Observatoire international des prisons. Et, il a quand même ordonné 11 mesures urgentes. Donc c'est effectivement là qu'on voit qu'il y avait, beaucoup de choses à faire. On a parlé des maisons d'arrêt. Vous voulez quand même nous parler des deux autres centres moyens de détention?
Les centres de détention sont donc destinés à héberger des détenus de longue peine. La plupart d'entre eux sont passés donc par les assises. Alors le paradoxe, c'est que on pourrait supposer que, au vu de la gravité des faits commis, la situation soit particulièrement problématique du côté de la sécurité, et c'est pas du tout ce qui se passe. Pour une raison très simple, c'est que les détenus s'inscrivent dans du temps long, organisent leur vie. La règle un détenu par cellule est respectée. Il peut y avoir aussi des possibilités de travailler au sein de la prison. Donc un certain nombre d'entreprises peuvent être hébergées. C'est le cas à Muret, par exemple.
Et est-ce que ça veut dire que les détenus reçoivent une rémunération en échange de travail?
Oui. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est un vrai problème parce que ces rémunérations sont très faibles. Et les statuts du travailleur détenu sont des statuts totalement à part. Des statuts habituels. Le ministre actuel souhaite changer la donne de ce côté-là. Pour donner un exemple, il n'y a pas de système de cotisation retraite, ce qui veut dire que tous les temps de travail en incarcération ne vont pas être comptabilisés pour ensuite calculer la retraite future. Donc, ça fait partie, évidemment, des situations problématiques dans la mesure où ce qui a été décidé du côté des juges, c'est une privation de liberté, mais ce n'est pas une privation de droits sociaux. Et donc, il y a un grand chantier qui est encore ici à construire sur ce sujet.
Donc ça, c'est la situation dans les centres de détention. Vous avez parlé de Muret, effectivement, dans notre région, en tout cas ex-Midi-Pyrénées. Et vous vouliez quand même nous dire deux mots des maisons centrales.
Oui. Alors les maisons centrales ont comme caractéristique d'héberger des détenus qui sont considérés comme à risque élevé. En tout cas, historiquement, c'est comme ça qu'elle se présente. Dans notre région, il y a une maison centrale qui n'est pas très éloignée de Toulouse, qui est à Lannemezan. À y regarder de plus près, c'est vrai que les règles de sécurité sont beaucoup plus strictes, mais en même temps, l'accompagnement dans certaines maisons centrales, pas toutes, l'accompagnement est plus individualisé, avec parfois même des possibilités de formation assez bien ciblées. Ce qui veut dire que paradoxalement, ce n'est pas la majorité, mais paradoxalement, certains détenus qui sont en détention, en centre de détention, demandent parfois leur transfert en maison centrale pour les raisons que je viens d'évoquer.
Pour avoir un meilleur accompagnement. Jacques Ferry ?
Oui, non, je voulais juste donner un exemple là pour illustrer ce que vient de dire Philippe. Je visite actuellement un détenu à Muret qui est passé par une maison centrale, pas Lannemezan, mais Saint-Martin-de-Ré. Un détenu qui était analphabète. Et à Saint-Martin-de-Ré, ça lui a pris plusieurs années, il a appris à lire et à écrire. Et maintenant qu'il est à Muret, bon, bah, il écrit des poèmes, il participe à des concours littéraires pour montrer que voilà, dans ces centres, ces maisons centrales, il peut y avoir des phénomènes positifs qui s'effectuent. Quoi.
Alors, le temps passe et je voudrais quand même qu'on aborde la question de la réinsertion. Si vous pouvez nous en dire deux mots en une minute, puis après, on va quand même parler de l'association des visiteurs de prison et puis de deux événements que vous organisez à l'occasion de ces 28e journées nationales. Un petit mot sur la réinsertion, Philippe Lecomte.
La réinsertion, on parle souvent du choc carcéral à l'entrée, on parle beaucoup moins du choc de la sortie. Et certes, il y a un dispositif organisé par ce qu'on appelle le SPIP, hein, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est leur boulot. On peut considérer qu'ils le font correctement, sauf qu'ils sont souvent dépassés par le nombre de dossiers à suivre. Donc il y a incontestablement un déficit de moyens. Mais au-delà, je dirais, des possibilités d'orienter les détenus vers des formations, vers certains secteurs, d'améliorer leur employabilité par toutes les manières possibles, il y a un aspect qui est un petit peu négligé, c'est le fait qu'après 10 ans, 15 ans, 20 ans de détention, on replonge dans une société.
Qui a changé, forcément.
Qui a changé, dont on ignore parfois les codes. Et je veux dire, les difficultés sont nombreuses et sont à peine perceptibles vu de l'extérieur. Il s'agit tout simplement de gérer correctement les moyens monétaires dont on dispose, de trouver une domiciliation bancaire, un hébergement, etc. C'est un vrai parcours du combattant quand on sort.
Alors, pour terminer, votre rôle de visiteur de prison, est-ce qu'il a évolué justement ? On parlait de l'évolution de la société. Est-ce qu'il a évolué à partir de toutes ces données ?
Le rôle fondamental, il n'a pas évolué. Enfin, c'est-à-dire que le visiteur de prison est là pour venir soutenir un détenu psychologiquement. Souvent, les détenus sont fragiles. Et surtout, en venant le rencontrer, on vient montrer au détenu que la société ne l'oublie pas, qu'il a une valeur. Bon, il a parfois commis, il a souvent à Muret, c'est des crimes, hein, mais on considère qu'il y a toujours une part d'humanité dans le détenu, et c'est en venant le rencontrer, on espère favoriser l'estime de soi du détenu, c'est très important justement pour que ensuite, en sortant, il puisse se projeter dans la société et essayer de retrouver sa place de citoyen. Quoi.
Oui, retrouver une certaine dignité aussi, je suppose.
Une certaine dignité, voilà.
Alors, l'Association nationale des visiteurs de prison organise deux événements. Mardi 23 novembre, donc c'est demain à 20h, la prison, une communauté à part, une rencontre débat avec vous-même, Philippe Lecomte. Et puis, jeudi 25 à 20h30, à l'Utopia, le cinéma de Tournefeuille, un film « Danser sa peine » et puis suivi d'un débat aussi sur la la condition carcérale et ce thème de prison.
J'aurais juste une petite précision à apporter. Ce n'est pas seulement l'Association nationale des visiteurs de prison qui l'organise, c'est un collectif, le GLCP, donc le groupement local concertation prison. Ça représente une bonne dizaine d'associations qui sont concernées par la problématique carcérale.
La CIMAD, le Secours catholique, l'Oustal, enfin voilà, il y a toute une batterie.
Deux soirées pour...
qui se fédèrent leur...
Oui, à plusieurs, on est plus fort. Voilà. Donc deux soirées à retrouver et à rejoindre pour en savoir plus sur cette vie carcérale et puis porter un autre regard aussi sur cette situation et sur les détenus. Merci à vous deux, merci d'être venus dans nos studios.
Merci à vous.
Philippe
merci.
Lecomte et Jacques Ferry, et puis bonne semaine qui va être certainement très riche en événements. Merci.
Merci à vous.